Bon, on va commencer. Alors, je suppose que si vous êtes venu ici, c'est que vous connaissez Michel Dieuzet. Donc, ça va m'épargner de faire une présentation de 20 minutes. Donc, c'est le photographe qui s'est fait un prénom. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les années 50, les photographes n'avaient pas beaucoup souvent de prénoms. On disait Cartier-Bresson. Qui c'est le prénom de Cartier-Bresson? Et bon, Doineau aussi, etc. Et donc, Michel, vous connaissez son travail qui vient de trouver une sorte d'aboutissement. Je crois qu'il aime à dire ou l'éditeur dit que c'est un triptyque. Et moi, je trouve qu'étant donné la nature du sujet, c'est plutôt un rétable. Parce qu'il y a du relief.
Un rétable en trois volets.
En trois volets.
Voilà.
Voilà.
Pas Eisenheim, mais... Bon.
Et donc, la question de la couleur n'en va pas se poser. Bon, plus exactement, commençons peut-être par ça. Il est noir et blanc, argentique. Pas toujours, peut-être uniquement argentique.
Si, il y a quelques exceptions, mais c'est quand même plutôt la vraie photographie, parce que c'est là que je maîtrise un peu.
Voilà.
Le numérique, je ne le maîtrise pas du tout encore. C'est encore quelque chose pour moi qui est excessivement mystérieux. C'est un peu comme l'ordinateur.
Et alors, la première question que je poserais, est-ce que ce noir et blanc, cette technique un peu à l'ancienne, ne convient pas particulièrement à l'Espagne noire et blanche, noire même, souvent. Et en tout cas, quand on est à la recherche de quoi d'ailleurs, est-ce des vestiges ou moins nostalgiquement de la permanence dans ces trois visages de l'Espagne?
Sans doute les deux, mais le noir et blanc, c'est quand même, c'est en photographie ce qui permet le mieux de capter la lumière, c'est-à-dire que la fidélité de la lumière... Puisque c'est ça qui appelle de faire une photographie, c'est un petit peu la façon dont la lumière écrit ou décrit les choses. C'est le noir et blanc quand même qui en donne la plus grande fidélité. Alors, il y a ça. Et la deuxième chose, c'est que ça permet aussi plus facilement d'échapper au, sans faire jeu de mots, au cliché. Je disais l'autre soir, là, quand il y a eu cette rencontre au Bar Castan, qu'une robe de flamenco rouge avec des pois blancs, si elle est en couleur... On tombe tout de suite dans la caricature, Carmen, machin, tout ça. Si elle est en noir et blanc, on y échappe un peu. C'est-à-dire qu'elle devient grise avec des pois blancs. Et c'est vrai que, comme dans ce travail sur l'Espagne, j'ai essayé toujours un petit peu d'éviter de tomber dans ce que les Espagnols appellent le topico, c'est-à-dire le cliché. Hein, j'ai essayé d'éviter ça. Le noir et blanc était pour moi quand même un garde-fou, un petit peu quand même. Et en plus, je crois que c'est vraiment le vrai jardin du photographe un peu aussi. Parce que c'est vrai que je fais mes développements moi-même, que je fais mes tirages moi-même, qu'il y a tout un travail artisanal comme ça, que j'aime faire, qui est vraiment l'aboutissement de l'image, et qu'on peut faire en noir et blanc et pas en couleur. Voilà.
Est-ce que ça prive pas quand même de... en tout cas dans la presse, qui n'est pas tout à fait l'édition, qui n'a pas la même noblesse, ça serait impensable d'essayer de faire une revue en noir et blanc. Enfin, on se priverait de tellement de lecteurs que...
Les Espagnols en font une.
Même les Cahiers du cinéma.
En font une très belle qui s'appelle Matador, qui n'a rien à voir avec la Tauromachie. C'est une très grande revue. Comme ça, il y a un numéro chaque année en noir et blanc.
Il y a l'Égoïste aussi en France. Mais bon,
il y avait Égoïste, oui, c'est ça.
Mais ça a des tirages.
Ah oui, non, bien sûr.
Mais est-ce que aussi le noir et blanc n'est pas... Alors, venons-en un petit peu au fond de la chose. Contre les topicos, contre les clichés, évidemment, c'est un travail c'est un petit peu le souci qui vous anime, ça. Bon. Et je suis très frappé de voir jusqu'à quel point persistent les clichés, justement, français sur l'Espagne, enfin français, en particulièrement français. Et il me revient toujours à l'esprit cette phrase de Marx, Karl, qui disait en Occident, il y a deux pays qui resteront à jamais incompris, c'est la Turquie et l'Espagne. Voilà. La Turquie, les Israéliens semblent avoir rapidement un peu mieux compris, là, mais l'Espagne,
Pour ce qui est de nous, Français, c'est vrai qu'il y a un malentendu depuis très longtemps. Mais il y a aussi un malentendu des Espagnols sur la France, hein, je veux dire. Mais moi, je pense que le mythe de Carmen, c'est un peu ce que j'essaye d'expliquer dans le dernier des trois ouvrages, là, celui qui s'appelle Espagnas. Oui. Je crois que le mythe de Carmen a fait beaucoup de mal, quand même. C'est-à-dire qu'il a défini, une fois pour toutes, une vision caricaturale de l'Espagne, et duquel on a quand même assez de mal à sortir. Hein, en tout cas pour tous les gens qui n'ont pas vraiment approché l'Espagne et qui ont essayé d'en rester à cette caricature-là, ils en sont complètement prisonniers. Et c'est vrai que moi j'ai tendance un petit peu à le déplorer, et le livre que j'ai essayé de faire, il voudrait essayer de combattre un petit peu cet état de fait, quoi, voilà.
Du
mythe de Carmen, oui.
Oui, oui, bien sûr, le mythe de Carmen, mais il y a aussi de façon plus prosaïque et plus ordinaire et plus populaire, même pas Carmen, alors, c'est-à-dire toutes les campagnes qu'on voit de publicité pour les vacances en Espagne vendent de la couleur,
Des robes andalouses.
Des plages et des robes andalouses et de la sangria. Alors là, j'ai pas trouvé un verre de sangria.
Non, mais ça participe de cette méprise dont on parle, justement. C'est-à-dire que les agences publicitées qui font des publicités pour vendre des voyages en Espagne, elles rentrent pleinement dans ce cliché-là du mythe de Carmen. Et voilà. C'est difficile, hein, et je sais pas comment ça peut changer. C'est un truc qui, moi, me désole depuis longtemps, parce que l'Espagne, c'est quand même un pays beaucoup plus intéressant que ça, beaucoup moins superficiel, beaucoup plus grave, beaucoup plus profond, qui trimballe une histoire sur le plan historique extraordinaire, qui a une littérature absolument magnifique. Je ne sais pas combien on a de prix Nobel, nous, les Français, dans ce siècle. Eux, ils en ont trois, déjà, quand même, dans ce siècle 19e, le 20e, là, voilà. Ils ont déjà trois prix Nobel.
On est au 21e, là.
Oui, non, mais je veux dire au 20e, là.
Ah bon, on a bien eu trois.
On en a trois aussi, oui.
Mauriac.
Ouais. Il y a Mauriac, il y a Gide, et Sartre, là.
Saint-Jean Père.
Ah oui, aussi, oui. Et Claude Simon, oui. Donc, on a un peu plus.
On avait des colonies, nous.
Camus. Oui, non, c'est vrai, ça. Bon, on ne fait pas de match.
Mais Michel, cette permanence-là, est-ce que vous êtes bien... On se voit pour que ça va sérieux. Hein,
oui.
Vous êtes bien sûr qu'elle soit toujours là. Tout à l'heure, vous disiez hors antenne que les Japonais arrivent au Rossio.
Non, mais l'Espagne est un pays qui est en train de changer considérablement, en tout cas. C'est vrai que c'est un pays qui, depuis qu'il y a eu la fin du franquisme et depuis l'arrivée des socialistes en 82, et la rentrée dans l'Europe, je veux dire, c'est un pays qui s'est complètement métamorphosé. Mais il y a quand même des choses qui persistent. Enfin, si on va à la Semaine Sainte dans des petits villages, par exemple... Bon, ben, ça n'a pas beaucoup changé entre maintenant 2010 et ce que c'était en 1970. Ça n'a pas beaucoup changé dans les petits villages. Évidemment, à Séville, oui. Parce qu'à Séville, il y a eu l'exposition universelle, il y a eu le tourisme, il y a eu tout ça. Mais il y a des choses quand même qui sont des... Enfin, je sais pas, qui sont tellement enracinés qu'on se demande même, parce que quand on voit les jeunes générations, par exemple, essayer de faire le Rossio exactement comme le faisaient leurs parents, pratiquement, alors qu'ils ont 25-30 ans, bon, on se dit quand même qu'il y a des choses qui sont très très fortement enracinées dans la vie sociale, dans le peuple, et que ça, il n'y a pas de vraie raison pour que ça ne dure pas encore quelques années, quoi.
Alors mettons pour le Rossio... Et pour la foi, parce que ça parle aussi de ça, le Rossio, ça parle aussi
de la religiosité. Comme toujours en Espagne, c'est un mélange total de paganisme et de ferveur, je veux dire. Mais c'est ça qui est intéressant dans l'Espagne, c'est un petit peu aussi mon idée dans ce livre, c'était de montrer un pays qui est en proie comme ça à toutes ces chimères, à tous ces contrastes, à tout... c'est vrai qu'on passe du pire au meilleur dans la même journée, et qu'on passe... du jambon immangeable au jambon délicieux, en changeant de bar simplement dans la même ville, quoi. Et que, bon, c'est un peu ce qui m'y intéresse, ce qui m'intéresse aussi, ce qui me fascine dans ce pays, c'est que il y a une façon de vivre quand même, il y a quelque chose qui fait que je suis presque happé un peu, à la fois par ces contrastes-là, et à la fois aussi par une capacité de vie quand même que peut-être nous n'avons pas ou plus. Plus nous, en tout cas. Nous, Français, je dirais. Voilà. Le moindre petit village espagnol, il y a 5 bars. Moi, j'habite un village de 300 habitants, il n'y a plus de bars. Ça fait 20 ans qu'il n'y a plus de bars. Voilà. Ils se font concurrence. Et ils vivent. Bon, voilà.
La sociabilité.
Oui, la sociabilité, la convivencia, comme on dit, je sais pas comment on le traduit en français, la convivencia, la convivialité, peut-être. Il y a tout ça, et c'est vrai que ces choses-là perdurent et on les voit pas beaucoup changer. Alors, finalement, quand on va à Madrid, on est dans une grande ville européenne, c'est clair, ça, c'est sûr. Mais en même temps, ces vies comme ça, de rencontres, de quartiers, de choses qui sont... Bon, ici aussi, il y a des vies de quartier à Bordeaux, c'est vrai.
Et la diversité, pour expliquer le S ?
Oui, ben voilà, ça c'est...
Enfin, tout le monde croit le savoir, mais oui. C'est pas forcément la différence.
Oui, mais c'est la multiplicité des paysages différents, la multiplicité des situations différentes, la multiplicité
des cultures, même.
Des cultures, ce mélange incroyable des cultures, quoi, je veux dire. C'est vrai qu'un pays qui, quand même, au Xe siècle, vivait où les trois religions vivaient dans une parfaite harmonie, chacune dérogeant régulièrement aux règles de sa propre religion pour assister aux fêtes des autres. C'est des choses qu'on n'a pas connues, quoi. Hein, je veux dire, au moment de l'époque de Cordoue, on n'a pas connu en France cette espèce de mélange comme ça extraordinaire des cultures, quoi. Hein, mélange des cultures, voilà, c'est ça.
Il n'y a aucune ensuite tradition réelle. Centraliste en Espagne. Au contraire, il y a un refus de Madrid, de la Metesa, de la Castille.
Oui, c'est tout à fait.
Plutôt un pays centripète que centrifuge.
J'ai une petite histoire que j'aime bien raconter. Parfois, à Sanlúcar de Barrameda, il y avait un petit restaurant que j'aimais beaucoup. Et chaque fois que j'allais là-bas, j'allais toujours y dîner. Et le patron me connaissait un petit peu. Et donc, j'y allais un peu tard le soir, et après, il tirait son rideau, puis il venait boire un coup avec moi, et puis il y avait une émission sur l'Europe, à la télévision, comme ça. Alors, il me sert un peu d'eau de vie, et puis il m'a dit « Bueno, ya, ahora que somos todos europeos. Es verdad, es la verdad de hoy, que somos todos europeos. » Bon, tu me servais un truc. Pero, en España, hay Galicia, hay Cataluña, hay, no sé, yo, un tío de Jaén. Bueno, para mí es... un forastero, total, comme ça. Il me réservait un truc, comme ça, il me dit. Et à Séville, moi j'y étais 3 fois, dans ma vie 4 fois, j'y étais à Séville. Y te voy a decir, Michel, aquí, nosotros, sabes, somos sanluqueños. Voilà, on est de Sanlúcar, quoi. Ouais. Et c'est vrai que...
C'est Bigote, non ? C'était Bigote.
C'était pas le Bigote, non. Ouais. C'était le père de... Pour ceux qui connaissent un peu le flamenco, c'était le père de Manolo Sanlúcar, le guitariste, qui était boulanger.
Ah, effectivement, il est sanluqueño. Oui.
Voilà, et qui avait un petit restaurant. Il faisait le pain, et il était guitariste, et il avait un petit resto aussi. Voilà. Non, mais ça, donc, c'est pour corroborer ce que disait Pierre, quoi, sur ce côté... C'est vrai que... Voilà.
Sur la tauromachie, peut-être qu'il y a 20 ans, je l'aurais volontiers rangé au compte des permanences intouchables. J'en suis un petit peu moins sûr maintenant, parce que même en Espagne, les progrès de l'anti-corrida sont très nets dans l'opinion. Et comme les aficionados ne sont pas prosélytes, et comme c'est plus une économie aussi sûre, et que peut-être, ça fait beaucoup de choses, hein, je vous laisse développer, et que le mundillo a été son propre ennemi par certains excès, travers, etc., etc., je me demande si ça ne va pas être comme la chasse à l'ortolan, quoi, la corrida, c'est-à-dire là, pour le coup, un vrai vestige. Enfin, c'est plus costaud encore, il y a une économie, tout ça, mais...
Je sais pas. Je ne sais pas trop quoi dire. Alors, enfin, c'est vrai qu'il y a l'exemple de la Catalogne là, qui se bat vraiment, enfin certains qui essayent de se battre vraiment pour le faire disparaître.
Ça n'a jamais été les plus fervents, mais il y en avait. Quoi.
Oui, mais là, c'est vrai que la bataille est serrée. Je ne pense pas qu'ils vont arriver à l'interdiction, mais la bataille est serrée. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je me suis rendu compte que dans mes amis, mes propres amis espagnols, et surtout des gens de gauche, hein, surtout des gens, des socialistes, il y a quand même un refus à la fois de la tauromachie et à la fois du flamenco, hein, pour la plupart. Parce que, justement, c'est ce qui caricature le plus l'Espagne et c'est ce qui rappelle le plus l'exploitation que le franquisme en faisait pour essayer de vendre le pays au tourisme. Voilà. Donc il y a un refus et presque un blocage. Alors, petit à petit, les intellectuels qui sont... Pour ceux, en tout cas, la plupart qui sont ouverts et tout ça, ils y viennent maintenant un peu. Mais il y a eu un blocage total, quoi, sur la tauromachie et sur le flamenco, de la part de
ces... Mais il y a quand même un recul du nombre des courses ou pas ?
Je crois pas, je crois pas. Il y a moins de fréquentation dans les arènes, peut-être.
Il y a moins de monde aussi.
Mais en même temps, à Madrid, par exemple, ils sont en train de développer des systèmes d'abonnement pour les jeunes, comme on fait dans les théâtres ou les choses comme ça.
Jeunesse musicale. Disant,
voilà. Oui, pareil, pour les jeunesses musicales, c'est-à-dire on peut acheter 3 billets pour... et on a un quatrième gratuit, des choses comme ça, pour essayer de relancer un peu. À Madrid, quand même, c'est encore difficile de trouver des places. Mais dans les autres ferias, malgré ce qu'on disait autrefois, on peut arriver le jour même et on trouve toujours des places, hein, quand même, je crois. Enfin voilà, il y a peut-être un peu moins de fréquentation.
Mais... en ce qui concerne le flamenco, il est quand même très circonscrit, quoi. C'est très régional. Et c'est même comme l'histoire de ce brave Sanluqueño, il y a celui de tel endroit, de tel endroit, de tel endroit. Tandis que la corrida, ça a été considéré, d'ailleurs par le franquisme, comme défini comme une des rares choses avec le football national. Là, c'était la fiesta, la feria, la fiesta nationale.
Nationale, oui. Oui, enfin, le flamenco...
Or, ça est en train de se dissoudre dans certaines provinces.
Je ne sais pas, je crois quand même que les ferias continuent vraiment à faire le plein et que... Enfin, je sais pas, François peut-être.
Non, je sais pas, je pose la question.
J'étais à Murcia, là, à Pâques, là. J'étais impressionné quand même de voir tous ces jeunes qui s'habillent de Nazareno et qui défilent et qui. Non, c'était affolant quand même de voir ça. Là, il y a quand même. Mais c'est beaucoup plus du paganisme que de la ferveur religieuse, ça c'est clair, hein, quand même. Mais bon, moi je dis dans ce livre-là, je me suis risqué à écrire un petit peu des petits textes là sur comment je perçois l'Espagne. Et je dis que l'espagnol, il a, à mon avis, hein, il a besoin de jouer le rôle du jour, quoi. Il faut qu'il soit... Alors, peut-être que c'est d'être Nazareno aujourd'hui, et puis peut-être que c'est d'être le vendeur de billets de la place Gambetta, je sais pas, ou un truc comme ça. Mais être identifié comme ça avec un rôle, quoi, un peu. Et je crois à ça, parce que... Alors, c'est une interprétation, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas très bon d'ailleurs sur ça en plus. Mais je me dis que, vous savez, c'est un peuple quand même qui a vécu donc, avec la domination arabe pendant longtemps. Et après, il y a eu 300 ans d'inquisition. Pendant cette inquisition, il y avait ce qu'on appelait une boîte aux lettres, qui était la boîte aux lettres sainte, où n'importe qui pouvait dénoncer n'importe qui. Bon, sa fortune, on n'allait pas voir si c'était vrai, c'était pas vrai. Oui, non, c'est pas ça. Sa fortune était confisquée, la moitié allait à la couronne, un quart au clergé et un quart au délateur. Alors, vous étiez à Sanlúcar de Barrameda, puisqu'on est là, vous étiez cordonnier. Bon, et puis il y en avait un autre cordonnier dans la ville, qui faisait un peu plus d'affaires que vous. Bah, vous mettez une lettre en disant que vous l'aviez vu rentrer à la mosquée, machin comme ça, hop, c'est terminé. Donc quand même, ça a duré 300 ans l'inquisition après les Arabes, 300 ans. Bon. Et j'ai souvent remarqué des gens, des vieux, qui rentrent dans des bars en Espagne, il faut tout de suite qu'ils aient quelqu'un qui parle. Sinon, ils ne sont pas à l'aise, à la limite, ils ressortent, ils reviennent un peu plus tard. Mais il faut qu'ils soient sécurisés un peu, il faut qu'ils soient admis, qu'ils soient rentrés en dente. Voilà. Et donc, il y a des petits trucs qui traînent comme ça un peu, peut-être. Oh, je ne sais pas si c'est vrai, si ça... Et c'est pour ça que je dis le rôle, l'identification, elle est importante. Voilà. Peut-être. pas.
D'où l'importance des clubs qui persistent.
Mais voilà, qui persistent énormément. Et alors, pour en revenir au flamenco, c'est vrai quand même que c'est sans doute beaucoup plus minoritaire que la tauromachie, mais il y a quand même énormément de peñas et énormément de festivals de flamenco et de gens qui sont les responsables de ça, le président, le machin, le truc. Bon, voilà.
En Andalousie.
Hein? Mais non, il y en a partout. Non, il y en a vraiment partout. Non, il y en a absolument même partout. À Burgos, j'ai vu une peña flamenca incroyable, à Burgos, quoi.
Il y a eu un rajeunissement aussi des interprètes.
Voilà, il y a eu aussi une grosse évolution, parce que les enfants des grands chanteurs ont été nourris à la musique rock, et ils ont mélangé tout ça, et il y a eu quand même des choses incroyables qui sont nées de tout ça. En essayant de garder un esprit un peu, mais il y a quand même une grosse évolution aussi. Et puis il y a des très jeunes, là, comme Miguel Poveda, qui a 30 ans, et qui alors persiste dans une tradition complètement rigoureuse, comme ça, du flamenco. C'est magnifique, c'est absolument magnifique. Donc voilà, c'est toujours pareil, il y a un peu de tout et le contraire de tout. Quoi. C'est vraiment le pays des contrastes, c'est vraiment Espagnas au pluriel, c'est vraiment, voilà. Je dis toujours l'Espagne, c'est un pays qui m'a envahi et qui continue de m'envahir et tout ça. Alors c'est vrai qu'au bout d'un moment, à force de, comme je suis photographe, on essaye de rassembler tout ça et de construire quelque chose et de donner un peu sa vision des choses. Mais je me dis aussi que peut-être pas grand monde a fait un travail photographique comme ça sur l'Espagne non plus, quoi. Je veux dire, avec une volonté de comprendre aussi, volonté de tout ça. J'ai mis dans ce livre Espagnas, le troisième, là, j'ai mis énormément de textes que j'ai trouvés dans toute la littérature, pas seulement la littérature espagnole, dans la littérature vraiment mondiale, puisque ça va d'Hemingway à Victor Hugo, en passant par, C.S. Nottebohm et Chateaubriand, et puis, et puis des textes de gens inconnus. Il y a même des textes de Louis Aimier qui a été un. Il a été rédacteur en chef de Sud-Ouest, non ?
Oui.
Il était à Sud-Ouest quand même, non ?
Il a été responsable des informations générales.
Des informations générales à Sud-Ouest, voilà.
Chroniqueur.
Qui a écrit des choses, pages magnifiques sur l'Espagne. Et une femme aussi tout à fait inconnue qui s'appelle Dominique Aubier.
Ah oui, ça c'est bien à voir.
C'est absolument magnifique le texte qu'elle
a écrit.
Pas inconnue,
quand même. Oui, maintenant, oui.
Ouais, voilà, donc il y a cette idée d'essayer de parler de ce pays en essayant de ne pas trop se tromper, parce que ce n'est pas facile non plus. J'ai mis une phrase de Lorca aussi qui dit « Quiconque abordera le problème espagnol se coupera les doigts au rasoir de la réalité.
» Je ne vais pas monopoliser la parole. Donc, y a toujours eu des toreros pour français, des danseurs pour français,
bien
la chunga.
Voilà, il y en a qui sont plus mauvais, alors pour les Allemands encore.
Et pour les Japonais aussi.
Ceux qui ne sont pas très bons, voilà. Ouais, mais les Japonais, ils sont malins.
Mais ils connaissent.
Les Japonais, ils sont malins, hein, parce que je ne sais plus quand c'était en 85 ou 6, je crois que c'était une Japonaise qui avait remporté le concours de Sévillane.
Oui.
Le concours de Sévillane à Séville.
Elle hein, ouais.
avait remporté une Japonaise. Oui, non.
Ah ouais, ah ouais, oui. Mais il n'y a pas à Bordeaux une Japonaise qui donne des cours de flamenco si...
Tu sais, on peut trop lire deux, trois phrases là, de celles qui sont là-dedans.
À toi.
Qui sont quand même incroyables.
Mais
sur
dans
l'Espagne,
à ça, là.
Oui, dans celui-là, oui.
Cessnotboom, c'est très bien.
Cessnotboom, c'est le labyrinthe du pèlerin, que ça s'appelle, je crois. C'est un énorme livre de 600 pages, comme ça, qui est chez Actes Sud. Et c'est une pérégrination sur l'Espagne qui est extraordinaire. Quoi. Il raconte, voilà, il erre en Espagne. Et... Ah tiens, cette phrase-là... qui date de 1938. Vous rappelez, je sais pas, à une époque, on a dit que c'était François Mitterrand qui avait inventé cette phrase de donner du temps au temps. Il y a longtemps qu'elle a été inventée. Et c'était, moi, je l'avais trouvé chez Bergamine, c'est écrit en 38, comme ça. Et c'est très beau, je trouve. Donner du temps au temps, c'est la définition dramatique de l'espérance. Faire passer le temps. Tout simplement vivre. Mais vivre devant, face contre la mort. L'homme invisible en nous instaure le dialogue dramatique de notre automatisme mortel avec notre mortelle liberté. Il y a des textes de Jean Cassou aussi. Je ne sais pas si Jean Cassou vous dit quelque chose. Jean Cassou, ça a été le fondateur du musée d'art moderne de Paris et qui était un hispaniste. C'est un Bernet, hein, je crois. Cassou, c'est un Bernet.
Et, ami des surréalistes.
Oui, ami des surréalistes, qui est enfin, un homme extraordinaire. Et qui,
tout à fait oublié en France.
Oui. Qui était marié, si je me souviens bien, avec la sœur de Vladimir Yankelevitch, qui était pianiste. Et alors, il a des phrases sur l'Espagne extraordinaires, lui aussi.
Et il a traduit beaucoup. Il a traduit beaucoup d'écrivains espagnols.
Il a beaucoup traduit. Il a traduit du Lorca. Il a traduit
Gomez de la Serna.
Gomez de la Serna aussi. Alors, je sais pas. Bon, je tombe sur la phrase de Cassou. Hein, je vous l'ai dit comme ça. C'est un des problèmes les plus singuliers que pose l'âme espagnole que de suggérer l'existence d'un point mystérieux où le goût de la vie, de la joie et des fêtes, l'ardeur conquérante, le besoin de s'affirmer jusqu'à l'extrême de tout soi-même, peuvent s'accorder avec le sens du ridicule, de l'ironie, de l'amertume et d'une inébranlable connaissance de la pourriture et du néant. Ils ne sont pas très gays, là, les deux que je vous ai. Je vais vous en trouver de meilleurs que ça. Je vais vous en trouver de meilleurs. Celui de Victor
Hugo. Le sens du tragique ne facilite pas le sens de l'humour, quand même.
Celui de Victor Hugo.
Il n'y a pas beaucoup d'humour.
Est très, très beau. Victor Hugo a écrit une lettre à l'Espagne. Il y a eu une tentative de république en Espagne à la fin du 19e. Je crois que c'est 1868, comme ça. Il y a eu celle de 31. Mais en 1968, c'était Castellar, je crois. Vous savez, il y a une place sur les, quand on descend les Ramblas de Madrid. Enfin, pas les Ramblas, c'est la Castellane, là, depuis le nord. Truc, il y a une place, à un moment donné, on passe place Castellar, et c'était ce président de la République espagnole, comme ça. Et alors, Victor Hugo était en exil, lui, à Hauteville House, et il a fait une lettre à la République espagnole. Lettre à la République espagnole, ça s'appelle comme ça. Alors, elle est très longue, hein, elle fait 8 pages. Moi, j'ai mis 3 lignes, là, comme ça. Il dit « Ce peuple à l'Alhambra, comme Athènes à le Parthénon, et à Cervantes, comme nous avons eu Voltaire. Il a eu des capitaines, des docteurs, des poètes, des peintres, des prophètes, des héros. En naissant, ce peuple a tenu en échec Charlemagne, et en mourant, Napoléon. Il n'a manqué à ce peuple que deux choses, savoir se passer du pape et savoir se passer du roi. » Il y a Michel Castillo aussi, bon, avec un livre qui a été réédité, je crois, en poche, qui s'appelle « Sortilège espagnol ». Très, très beau livre sur l'Espagne, qui est paru en son temps comme ça. Les Andalous sont paradoxalement les plus espagnols des Espagnols. C'est qu'ils constituent en quelque sorte la vérité de l'Espagnol. L'Andalou est la part refoulée qui sommeille en chaque Castillan. Pas vraiment arabe, pas tout à fait chrétien, un peu juif, certainement. Bref, le produit d'une histoire mouvementée. Aussi, les Andalous posent-ils au paroxysme les défauts et les vertus de l'espagnol. Julien Gracq aussi. Enfin, bon, il y a beaucoup, beaucoup de... Voilà, mais ça, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas que des photos dans ce livre et qu'il y a des petits textes qui peuvent... Ah oui, il y a aussi celle que j'ai mis en exergue du film qu'on a projeté hier sur le Rossio, là, une phrase de Cioran. Le mérite de l'Espagne est non seulement d'avoir cultivé l'excessif et l'insensé, mais aussi d'avoir démontré que le vertige est le climat normal de l'homme. Quoi de plus naturel que la présence des mystiques chez ce peuple qui a supprimé la distance entre le ciel et la terre ? Bon, voilà, je vais arrêter parce que je vais avoir fini. Hein ? Sinon, ça va faire trop et vous allez...
Ça écrase,
va être indigestion. Ça va être une indigestion de phrases, quoi. Voilà, mais c'est vrai que je les ai mises un peu dans cette idée de dire, voilà, attention, l'Espagne, c'est quand même quelque chose d'un peu grave, quoi, d'un peu sérieux, quoi. Il faut arrêter de le voir à travers nos prismes touristiques.
De l'humour.
Oui, alors, je vais raconter justement une histoire que Jean Cassou raconte dans ses mémoires et qui est assez extraordinaire, assez extraordinaire. Ça se passe à Barcelone pendant la guerre civile, quand les barricades commencent à venir dans les rues, un peu. Et il y a un type, tout le matin, il va chercher son journal, même si ça canarde, il est habillé en costume trois pièces, et il fait son petit tour comme ça. Et il voit les mecs sur les barricades qui tirent n'importe où, qui savent pas tirer. Alors il commence à les invectiver, en leur disant, mais où est-ce qu'on vous a appris à tirer? Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Tais-toi, papy, t'as qu'à venir avec nous, t'as qu'à monter sur la barricade et tout ça. Le vieux, il enlève sa veste, il monte sur la barricade, il prend le fusil, il voit le type d'en face, boum, il tire, il le déquille. Boum, il tire, il en déquille un deuxième. Vous voyez, c'est tout, si vous appliquez un peu... Comme ça, allez, essayez, appliquez-vous un peu. Alors, non, reste avec nous, on a besoin d'un type comme toi. Je peux pas rester, moi, je suis pour ceux d'en face. Là. Voilà, l'humour espagnol, ça va loin, hein, mais c'est ça aussi. C'est aussi ça, quoi. Il y a une petite anecdote, là, par rapport à, justement, ces liens entre l'Amérique du Sud. Donc, je vous disais que beaucoup d'intellectuels, après la guerre civile, sont partis là-bas. Et Gomez de la Serna, lui, était à Buenos Aires. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ce nom de cet écrivain-là. Et quand il était à Madrid, tenais tertulia, comme on dit, tous les jours dans un café qui s'appelait le Café Pombo, à Madrid. Et tertulia, c'était qu'il était là et qu'il trônait et qu'on venait s'asseoir et qu'on parlait et qu'on buvait. Et il s'est retrouvé complètement isolé à Buenos Aires, pour des raisons de vie personnelle, comme ça, mais quand même un peu coupé de finalement les liens qu'il avait avec tous ces intellectuels avant la guerre. Et donc, comme il ne recevait aucune lettre, il s'écrivait des lettres à lui-même. C'est-à-dire, il s'appelait Ramón Gómez de la Ferne, et il s'écrivait une lettre, « Mi querido Ramoncito, hace tiempo que no tengo noticias. » Et toutes ces lettres, il en faisait une, deux, trois par jour, comme ça, il les mettait dans une grande corbeille à côté de la porte d'entrée de son appartement de Buenos Aires. Et quand il sortait au café, parce qu'il sortait, il en prenait une au hasard, comme ça, il se la postait. Donc, deux jours après, il la recevait, quoi. Et il lisait sa lettre, comme ça. Et je vous dis ça parce que ça a été édité, ça, chez André Dimanche, là. Ça s'appelle « Lettre à moi-même ». C'est absolument sublime, quoi. C'est extraordinaire. Extraordinaire.
Drôle.
Drôle, c'est plein d'humour. Et en même temps, ça a un côté pathétique aussi. Il y a tout ça. Voilà. Pour ceux qui...
Mais tout Gomez de la Serna, vous devez lire.
Tout Gomez de la Serna est extraordinaire.
Ouais. Il a fait un livre d'aphorismes uniquement consacré au sein de femmes, sans une vulgarité en 300 pages.
Voilà. Ça s'appelle « Saint » au pluriel, et il raconte à chaque fois comment il arrive à convaincre la dame simplement de lui montrer ses seins, quoi. Et après, il les décrit. Il y a la poissonnière.
Il y a des catégories.
Voilà, il y a la poissonnière, il y a la concierge, il y a la femme du notaire. Le livre n'est absolument pas vulgaire.
Ah non, non.
Non, il n'est absolument pas vulgaire.
Très poétique.
C'est complètement écrit, je veux dire, c'est tout, c'est inventé. Mais c'est extraordinaire, parce qu'à chaque fois, parfois c'est facile, parfois c'est... La poissonnière lui montre les seins facilement, tu vois, par exemple, voilà. Et puis la femme du notaire, non, c'est compliqué, quoi. Voilà. Enfin, tout Gomez de la Serna est absolument...
Et c'est disponible encore, ça, hein, oui.
Chez André Dimanche, oui.
Non.
Ah. Actes Sud Babel aussi, oui. Ah oui, Saint aussi. Saint, c'est chez Actes Sud Babel. Mais les lettres à moi-même, je crois que c'est que André Dimanche. Hein. Ouais. Voilà, un grand écrivain qui pouvait avoir le prix Nobel et puis qui n'a pas eu.
Mmh. Une revue bordelaise lui avait consacré un numéro. Il s'appelait 4 Taxis.
Taxi, 4 Taxis, oui, je l'ai ce numéro. Hein. C'est vrai. Il dessinait aussi, un petit peu comme Cocteau, des petits dessins comme ça. Enfin, il y a toujours beaucoup d'humour quand même.
Il a été traduit et vénéré par Valéry Larbeau.
Qui a été un grand découvreur d'écrivains espagnols, Valéry Larbeau, hein, avant la guerre de 40, là, et qui a fait traduire beaucoup de romans. Le Torero Carach aussi. Bon, en tout cas, merci d'être venu. J'espère que ça vous aura un peu intéressé, peut-être fait découvrir peut-être certaines choses, mais continuez à essayer de voir l'Espagne du bon côté.